poussière d'étoiles.
Jeunesse, si tu savais, un grand témoin pour les jeunes d'aujourd'hui. Après avoir, dans une première partie, parlé de la mission historique de Jeanne, qui était de libérer la France, libérer Orléans, de permettre au roi de trouver sa légitimité par le sacre de Reims, d'être connu par tous comme vrai roi de France, à l'opposé du roi d'Angleterre. Jeanne est aussi une jeune fille de 17-19 ans qui vit dans un monde de guerre, de dureté, avec des hommes de guerre qui sont souvent des rustres. Elle y gardera sa pureté, puisqu'on l'appellera toujours Jeanne la Pucelle. Elle aura aussi un bon sens de l'humour et une mission qu'elle dit recevoir de Dieu par l'intermédiaire de ses voix. En ces temps si rudes, ces hommes sont impressionnés par la pureté de Jeanne. La virginité de Jeanne est une preuve de l'authenticité de sa mission. Elle revendique son titre de pucelle, le seul nom par lequel ses contemporains la dénommaient. Le bon sens de Jeanne est aussi un signe de la cohérence du personnage. Jeanne n'est pas une illuminée que ses révélations surnaturelles éloignent de la réalité. Bien au contraire, elle a bien les pieds sur terre. Lorsqu'elle fut interrogée à Poitiers par des clercs sur sa mission, un dominicain du nom de Seguin fut impressionné par la clarté de ses réponses, son aplomb et sa sincérité. Il fut d'ailleurs surpris par l'humour de Jeanne. Je lui ai demandé quel langage parlait sa voix. Elle m'a dit « meilleur que le vôtre ». Moi, je parlais limousin et de nouveau, je lui demandais si elle croyait en Dieu. Elle répondit « oui, mieux que vous ». Plus tard, lors du procès de condamnation, les juges ont fort affaire avec elle. D'emblée, l'enquête préliminaire que Pierre Cochon avait ordonnée ne permet pas de retenir contre Jeanne un quelconque chef d'accusation. Il faut alors commencer le procès sans motif. Jeanne ne doit donc être condamnée que sur ses propres paroles. Elle n'a pas d'avocat, elle doit se défendre seule et elle se défend bien, sans jamais se contredire, en gardant une totale cohérence avec elle-même du début jusqu'à la fin, qu'on en juge dans l'interrogatoire du 1er mars 1431. Quel aspect avait Saint-Michel quand il vous apparut ? Était-il nu ? Pensez-vous que Dieu n'ait pas de quoi le vêtir ? Répond Jeanne. Avait-il des cheveux ? Pourquoi lui aurait-on coupé ? Avait-il une balance ? Je n'en sais rien. J'ai grande joie quand je le vois. Quels furent donc les motifs de sa condamnation ? On tenta de la prendre en défaut en rédigeant 70 articles mensongers qui contredisaient Jeanne. En lui lisant ces articles, on espérait la prendre en défaut, mais elle résiste. Les juges essayèrent ensuite de l'impressionner en lui montrant le bourreau et la chambre de torture. Ce fut en pure perte. « Vraiment, déclare Jeanne, si vous deviez me faire arracher les membres et faire partir l'âme du corps, je ne vous dirais autre chose. Et si vous en disiez quelque chose, après je dirais toujours que vous me l'auriez fait dire par force. Il ne reste plus qu'un argument, l'habit d'homme. Jeanne n'est pas soumise à l'Église car elle porte un habit qui lui est interdit. Sachant qu'elle est gardée dans sa prison par 3 soldats anglais, qu'elle porte des fers aux pieds et que la nuit, sa chaîne est attachée à une lourde pourtre de bois, on peut aisément comprendre que cet habit est une protection. Le 24 mai 1431, Cochon monte une mise en scène. Jeanne comparaît dans un cimetière à Saint-Ouen devant ses juges. Elle est sommée d'obéir à l'Église en signant une cédule d'abjuration. Si elle refuse, elle est condamnée. Jeanne se soumet, promet de répondre au pape et de revêtir un habit de femme. Sur la cédule où elle doit renier ses voix, elle appose une simple croix dans un rond. Or Jeanne s'est signée de son nom. En code militaire, ce signe signifiait que l'ordre ne devait pas être exécuté. Revenue dans sa prison, Jeanne revêt l'habit féminin, mais ses gardes la nuit lui dérobent ses nouveaux vêtements et ne lui laissent que les anciens. Cochon trouve ce prétexte pour l'accuser d'être relapse, de retourner dans ses erreurs et la condamner précipitamment. On peut se demander quel était le sens de la mission de Jeanne d'Arc. Bien sûr, une intervention divine dans l'histoire perturbe une conception rationnelle des faits et des événements. Cependant, malgré tout le zèle de Pierre Cochon, Jeanne n'a pas pu être condamnée parce qu'elle avait des voix, parce qu'elle était illuminée ou déséquilibrée. Il n'a jamais pu réussir à prouver une quelconque incohérence. Jeanne ne s'est jamais contredite. Alors, à Poitiers, Jeanne raconte sa vocation. Quand elle gardait les animaux, une voix s'était manifestée à elle qui lui dit que Dieu avait grande pitié du peuple de France et qu'il fallait qu'elle-même, Jeanne, vînt en France. En entendant cela, elle avait commencé à pleurer. Alors la voix lui dit qu'elle aille à Vaucouleurs et que là elle trouverait un capitaine qui la conduirait sûrement en France et auprès du roi et qu'elle n'ait doute. Elle avait fait ainsi et elle était venue auprès du roi sans aucun empêchement. Ce récit, elle l'a fait plusieurs fois devant ses juges sans se contredire, malgré tout leur piège. Elle refuse de renier ses voies et affirme que même si elle meurt, les Anglais seront chassés hors de France. « Je sais bien que ces Anglais me feront mourir, parce qu'ils croient après ma mort gagner le royaume de France. Mais seraient-ils 100 000 godons de plus qu'ils ne sont à présent, ils n'auront pas le royaume, déclare-t-elle. Et c'est bien ce qui se produisit après sa mort. Certes, les Anglais font sacrer le jeune Henri VI dans la cathédrale de Paris en 1432, mais ce symbole ne rallie pas les Français et donne pas la victoire. » En 1435, les Armagnacs et les Bourguignons se réconcilient. En 1436, Paris rejette les Anglais. La Normandie, qui avait été abondamment pillée, se soulève en 1449. Rouen comptait près de 14 000 habitants au moment de la conquête anglaise. La ville ne compte plus que 5 000 habitants après. Les Anglais sont battus à Formigny en 1450, puis à Castillon en 1453. Ils doivent céder le duché de Guyenne qui leur appartenait depuis Aliénor d'Aquitaine. La meilleure preuve de l'authenticité de la mission de Jeanne est bien la réalisation totale de ses prophéties. La journée du 30 mai 1431 s'acheva de façon bien sinistre dans la bonne ville de Rouen. Pourtant, les Anglais auraient dû avoir bien grande joie, car leur pire ennemi était mort. Le bourreau qui avait été convoqué pour la torturer dans le donjon de Rouen rapporte ceci. « Une fois dans le feu, elle cria plus de 6 fois « Jésus !» et surtout en son dernier souffle, elle cria d'une voix forte « Jésus !» au point que tous les assistants purent l'entendre, presque tous pleuraient de pitié. Un maçon, qui avait effectué plusieurs travaux dans le château où Jeanne fut emprisonnée et jugée et qui l'avait vue plusieurs fois, raconte également « J'ai entendu dire que maître Jean Tressard, secrétaire du roi d'Angleterre, revenant du supplice de Jeanne, affligé et gémissant, pleurait lamentablement sur ce qu'il avait vu en ce lieu et disait « Nous sommes tous perdus, car c'est une bonne et sainte personne qui a été brûlée et qu'il pensait que son âme était entre les mains de Dieu et que quand elle était au milieu des flammes, elle avait toujours clamé le nom du Seigneur Jésus. » Le sens profond de la vie de Jeanne s'exprime ainsi dans ses derniers instants. En conclusion, le problème que Jeanne pose à l'historien et à l'histoire est le même que celui que pose Jésus de Nazareth. En effet, Jeanne prétend de bout en bout qu'elle a reçu sa mission de Dieu, qu'elle a obéi à ses voies, qu'elle préfère mourir plutôt que de renier sa mission. Jésus prétend être le Fils de Dieu. Retrouvons Jeanne de l'histoire, que l'on croit en Dieu, qu'on n'y croit pas. En tout cas, c'est un personnage que ceux qui croient en Dieu et ceux qui n'y croient pas, en France et à travers le monde, ont tenu comme une héroïne ou comme une sainte, comme un personnage extraordinaire de l'histoire mondiale.